Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdua et c'est l'heure de l'interview avec au studio Martine Millon. Bonjour.
Bonjour.
Nous avons aussi Anne Sénémo.
Voilà. Bonjour.
Bonjour. Toutes deux, vous êtes ici pour nous annoncer la prochaine programmation de l'Université du Populaire du Diois. Et pour cela, vous avez une date, ça sera celle du 19 février pour commencer. Il s'agira d'accueillir Monsieur Laurent Demanze, qui est professeur des universités et spécialiste de littérature contemporaine. Et sa conférence sera sur les récits d'un monde en mutation, le vivant dans la littérature contemporaine. Et donc pour vous, on peut peut-être rappeler aux auditeurs ce qu'est l'Université populaire du Diois et son but.
Alors l'Université populaire du Diois fait partie du réseau national des universités populaires de France. Et également du réseau tridépartemental, donc réseau des universités populaires du Gard, de la Drôme et de l'Ardèche. Ce sont des associations qui sont locales, des associations d'éducation à destination essentiellement des adultes. Et toutes les universités populaires partagent un socle de valeurs communes et développent son activité en lien étroit avec son implantation territoriale. Le projet d'éducation populaire est pensé toujours avec les partenaires et les acteurs locaux. Voilà. Alors, chaque université populaire défend des valeurs qui sont fondamentales. On pourrait juste dire parmi celles-ci la laïcité, la solidarité, la tolérance, développe aussi l'esprit critique, la citoyenneté. Et il est important de dire que ce sont là des enseignements qui sont accessibles à tous, sans condition d'âge ni de diplôme. La démarche essentielle, c'est avant tout le partage des savoirs. Il est question d'enrichir la réflexion, de développer et d'étayer les connaissances de chacun d'entre nous. Voilà, et de façon peut-être plus générale, plus globale, l'objectif est d'appréhender le monde sous ses multiples facettes, on pourrait dire, et de participer, de concourir à la construction d'un monde qui serait plus juste et plus solidaire.
Alors, vous, Martine et Anne, vous êtes membres du conseil d'administration de l'Université populaire du Diois. Ce sont vos activités professionnelles ou par passion que vous êtes inscrite dans ce projet ?
Moi, je me suis particulièrement occupée de culture et d'enseignement pendant ma carrière, puisque j'étais surtout conseiller culturel à l'étranger. Et quand je suis arrivée à Die, j'étais très intéressée par l'aspect extrêmement divers de la population et de l'intérêt porté à toutes sortes de thèmes. Donc l'université populaire trouvait tout à fait sa place. Donc c'était mon métier, mais pas directement. Disons que je suis plutôt une passeuse d'éducation qu'éducatrice moi-même.
Et vous, Martine ?
Alors moi, j'ai tout un parcours dans le monde du médico-social, mais beaucoup sur l'éducation spécialisée, notamment auprès des personnes porteuses de différents handicaps. Et j'ai déjà participé à des conférences, un certain nombre de choses autour de l'éducation populaire, et c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup tenu à cœur. Donc la création d'une université populaire du Diois, voilà, j'ai tout de suite adhéré et ça m'a intéressée.
Voilà. Donc cette université populaire du Diois existe depuis mai 2025. Vous étiez venu, vous ou d'autres personnes, nous présenter ce projet. Il y a eu depuis trois conférences qui ont eu lieu cet automne. On citera notamment Yéna, qui vit dans le Diwa et qui avait étudié justement qui habite le Haut Diwa. Alors pour vous, il y avait deux autres conférences, j'ai plus les noms en tête.
Oui, les deux autres conférences, donc en septembre, on a vraiment démarré en septembre avec une conférence d'Antoine Garapon sur la justice restaurative. Et on avait couplé donc cette intervention avec la projection d'un film au cinéma Le Pestel, Je verrai toujours vos visages, de Jeanne Herry, qui traite concrètement de ce qu'est la justice restaurative.
Ces conférences ont donné lieu à un débat, des échanges avec les conférenciers. Et il y a aussi, est-ce que ça laisse une trace au sein de votre équipe? Est-ce que ça permet ensuite d'enrichir un peu le dialogue entre vous?
Nous apprenons beaucoup de choses aussi lors de ces conférences. Et on choisit les sujets en fonction de choses qui nous paraissent vraiment importantes à diffuser. Et les deux dernières conférences, c'était sur l'intelligence artificielle, faite par de jeunes scientifiques qui étaient extrêmement enthousiastes et qui nous ont appris beaucoup de choses, pas seulement à nous, mais aussi aux élèves du lycée, puisqu'on avait travaillé en partenariat avec le lycée. On essaye d'être en partenariat avec d'autres institutions de DI, avec des associations, des collectivités, tout ce qui peut permettre d'élargir un public le plus nombreux possible pour ces sujets de société très, très fondamentaux.
Ce qu'on peut rajouter, c'est que l'idée n'est pas de faire une conférence présentée de manière uniquement théorique et professorale. On est vraiment sur cette notion du partage des savoirs. Donc il n'y a pas de sachant et de non-sachant au départ. Bien sûr qu'on apprend plein de choses, puisque les conférenciers sont quand même des experts dans leur domaine. Et c'est tout à fait passionnant. Mais l'idée, c'est vraiment d'interagir avec le public qui est présent, de partager des expériences et d'engager une réflexion souvent très en lien avec les événements ou les actualités sociétales.
D'autant que le territoire du Diwa, le canton du Diwa est impacté aussi avec l'actualité, ces bouleversements. D'ailleurs, par rapport à... Vous parliez donc d'une présence sur trois départements, la Drôme notamment. Dans la Drôme, il existe d'autres cantons que le Diwa?
Oui, bien sûr. Il y a une université populaire du Val-de-Drôme qui se trouve à Crest et avec laquelle on a quand même des échanges et on a mis en place des partenariats. Et il y en a d'autres sur la Drôme.
Il y en a une à Nyons, il y en a une à Valence, il y en a une à Montélimar. Il y en a beaucoup, aussi bien dans des grosses villes. Donc moi, je viens de Grenoble, il y en a une où il y a 4000 adhérents à Grenoble, et énormément de cours. Il y en a aussi dans des endroits beaucoup plus petits, comme Tain-l'Hermitage ou Tournon, qui sont aussi dans la Drôme.
Et donc, les conférences qui sont proposées dans le Diwa sont de votre propre initiative, ou alors il y a aussi des échanges entre les autres?
Alors, ce qu'on a fait au mois de juin, juste après avoir créé l'association, nous avons fait une réunion publique où on a demandé à tous les Diwa présents, et ils étaient nombreux, je crois qu'on était 90, déjà d'expliquer ce que c'était qu'une université populaire et de leur demander quel thème ils aimeraient qu'on aborde, quel sujet, des ateliers. Et c'est vrai qu'on a eu, c'était très très riche, les échanges ont été très riches et on a eu beaucoup de thèmes et de sujets qui ont été proposés à ce moment-là, nous en tenant compte. Et nous essayons d'être au plus près de ces demandes et de ces besoins des habitants de l'ensemble du Diwa, parce que ça, c'est quelque chose qui est très, très important pour nous, c'est qu'on ne veut surtout pas, ça s'appelle l'Université populaire du Diwa, ne pas se cantonner à la ville de Di. Donc, nous faisons des ateliers, mais Anne en parlera plus précisément tout à l'heure, qui sont... décentralisée, si l'on peut dire, en tout cas pas dans la ville de Die elle-même. Et nous espérons, nous souhaitons, nous avons déjà pris pas mal de contacts, mais faire des conférences sur Luc, sur Châtillon et d'autres villages environnants.
On se souvient, il y avait les conférences de Luc hein, aussi qui étaient organisées.
Je ne me souviens plus du nom de ce monsieur, mais je dois justement le rencontrer prochainement à Recoubeau. Il organisait des réunions sur la philosophie. Il avait été un peu découragé parce qu'il était un peu seul. Donc, oui. On va voir avec lui s'il y a possibilité d'avancer. Il faut qu'on ait des relais locaux, évidemment. On ne peut pas tout faire à partir de Die.
Il en avait proposé d'ailleurs sur Die hein, aussi, à la suite. Et il y avait peut-être... aussi cet enregistrement qui était fait de ces conférences que nous diffusions ensuite en podcast sur notre site. Hein. Ce n'était pas forcément diffusé sur les ondes, mais on pouvait les retrouver sur notre site. On peut les retrouver sur notre site internet. Alors, cette demande du public que vous êtes, comment s'opère ce choix ? Est-ce que vous vous retrouvez ? Est-ce qu'il y a un échange de lettres, par exemple ? Pour connaître un peu les avis et les envies.
Nous parlons entre nous, nous sommes un CA, donc de 18 personnes. Donc il y a de quoi, il y a déjà pas mal d'avis différents, de propositions, de contre-propositions. Donc on débat beaucoup entre nous. Et puis chacun recueille un peu des demandes faites par des gens qu'on connaît ou des propositions. Donc on en parle. Bon, on a du choix à faire parce qu'on ne fait pas énormément de conférences. Pour l'instant, on en a fait 3, on a fait à peu près une par mois. Et on essaye de diversifier, de ne pas être toujours sur les mêmes thèmes. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on travaille. On a des commissions. Alors, il y a une commission communication, une commission atelier, une commission, évidemment, administrative. On travaille comme ça.
Alors, le prochain rendez-vous sera avec M. Laurent Demanze. Je l'ai présenté en début d'émission. Et donc, il y a ces récits d'un monde en mutation, le vivant dans la littérature contemporaine. Et plus précisément, face à l'Anthropocène et ses bouleversements, la littérature nous escorte pour aiguiser notre vigilance face au saccage de la planète. Je vais vous laisser compléter, Martine, oui. Pour ce propos. Oui. Et puis, je vous reposerai une question ensuite par rapport à cet état.
Oui, donc M. Demanze complète en disant que c'est aussi une école de l'attention et de la sensibilité qui nous ouvre plus intensément au vivant et nous permet de nouer de nouvelles alliances. Voilà, alors l'Anthropocène, c'est quand même un néologisme qu'on entend beaucoup aujourd'hui, on pourrait le qualifier ainsi. C'est un néologisme qui désigne une nouvelle époque géologique qui débute au moment où l'influence de l'être humain sur la géologie et les écosystèmes devient significative à l'échelle de l'histoire de la Terre. Voilà, c'est un terme qui a été popularisé dans les années 2000, mais qui finalement aurait débuté au XVIIIe siècle, au moment de la révolution industrielle. Mais on en parle beaucoup actuellement. Et lors de cette conférence, Laurent Demanze présentera quelques textes d'auteurs qui font à la fois des auteurs qui sont à la fois sur le récit et sur l'enquête. On pourrait citer Pauline Peyrade, avec son livre qui s'appelle « Les habitantes », Claudie Hunzinger, « Un chien à ma table », et Wendy Delorme, « Le chant de la rivière ». Je viens de terminer un roman d'anticipation de Wendy Delorme, qui s'appelle « Viendra le temps du feu ». Peut-être qu'il l'évoquera, mais je trouve qu'on est aussi dans la thématique. Il y aura aussi Lucie Taïeb, qui a écrit un livre qui s'appelle « Fresh Kills, recycler la terre ».
Alors, ces propositions, on peut s'en rendre compte, ce sont essentiellement des références d'auteurs féminins. Oui. C'est parce que c'est ce qu'on trouve principalement, ou alors il y a eu un choix ?
Je ne pense pas qu'il y ait eu un choix. Je pense que c'est ce qu'on trouve principalement. En tout cas, lui, en tant qu'enseignant universitaire, ce sont des auteurs. Il parlait aussi, mais ça ne fera sans doute pas partie de sa conférence, en tout cas celle du 19 février, mais il avait également proposé Nastassia Martin, qui a écrit un livre qui s'appelle « Croire aux fauves », qui est déjà intervenue dans le Diwa et qui est connue et qui habite à Grenoble. Donc je pense que c'est quelqu'un qu'il a rencontré, de même que Wendy Delorme, qui présentera donc le chant de la rivière. Wendy Delorme vient quelquefois dans le Diwa. Laurent Demanze, moi j'ai surtout été en contact avec lui par l'intermédiaire de Thaïs, qui travaille à la librairie Mosaïque et qui a déjà eu l'occasion de lui faire faire des signatures et qui vient régulièrement rencontrer l'équipe de Mosaïque. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on a, quand on a créé cette université populaire et qu'on a commencé à échanger entre nous sur la pertinence de certaines conférences, sur des relations qu'on pouvait avoir nous et des propositions à faire, on s'est très vite rendu compte que dans le Diwa, il y a des vraies pépites et qu'on a énormément de ressources sur place, ce qui nous réjouit fortement. Et voilà.
Vous-même étant des ressources également ?
Oui,
personnellement, une ressource de fraîche date. Je suis là depuis 2 ans, mais je suis émerveillée justement par tous les gens qu'on peut rencontrer et toutes ces, pas forcément des habitants d'ailleurs permanents, mais des gens qui ont des maisons de campagne, qui viennent régulièrement et qui sont tout à fait prêts à nous prêter la main pour développer nos activités.
Alors, l'Anthropocène, hein, donc, c'est la trace de l'humanité dans la géologie. Et vous avez demandé à M. Demanze d'aborder ce sujet sur les récits des mondes en mutation au travers de la littérature contemporaine. Vous avez cette concertation pour demander d'être éclairé sur ce qui est écrit aussi, sur cet aspect de notre civilisation.
Oui, tout à fait.
Mais vous êtes en recherche particulière de sujets précis ou alors de renseignements, de données ?
La raison pour laquelle on a,
oui,
on a
qu'est-ce
pensé
qui,
à
qu'est-ce
son,
qui motive
à, son intervention
à aborder ce sujet de l'Anthropocène, notamment dans le Diwa ?
Eh bien, dans le Diwa, je pense que c'est quand même une thématique pour laquelle les Diwas sont très sensibles et réfléchissent aussi à ça. La question de l'écologie, qui est bien sûr qui dépasse largement le cadre du Diwa, bien entendu. En tout cas, dans le Diwa, il y a quand même une sensibilité toute particulière autour de l'écologie. On vient de terminer là les conférences d'écologie, la
au
semaine
quotidien.
De l'écologie au quotidien. C'est une thématique pour laquelle, oui, les Diwas sont très très sensibles et on a vraiment pensé qu'il y avait des choses à échanger autour de ça et l'approche et la richesse qu'apportera M. Demanze lors de sa conférence permettra peut-être aussi, par la suite, d'affiner toutes ces questions et peut-être d'élargir, je ne sais pas, à des ateliers, à une réflexion plus importante, sous forme de stage ou autre, pourquoi pas.
Justement, cette université populaire du Diwa donc, propose ces conférences, débats, échanges, mais au-delà, il y a aussi des propositions d'ateliers que vous opérez, et avec une fréquence particulière.
Alors, je peux rajouter quelque chose à ce que Martine vient de dire, c'est que nous avons quand même un fil rouge que nous avons choisi pour cette année, qui était « Penser dans la crise ». Donc, parce que tout le monde a compris qu'on était au sein d'une crise de très, très grande importance. Donc, on s'attache à approcher cette crise et à cette réflexion par différents biais et sur différents domaines. Donc, le droit, la justice restaurative, la science, l'intelligence artificielle, la littérature. Donc à chaque fois, cette recherche, c'est ça, c'est comment est-ce qu'on peut arriver à penser alors pas forcément à se rassurer, mais à s'informer et à avoir une position réfléchie sur les différents points qui posent question. Alors, au niveau des ateliers, donc il y a des conférences qui durent une heure ou deux, qui sont suivies d'un débat. Et puis, on essaye de développer aussi des ateliers à cadence régulière qui permettent aux gens de se retrouver et de faire une réflexion plus dans la durée. Donc, ce n'est pas toujours facile de trouver des thèmes qui n'ont pas encore été creusés à dix, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. Il ne s'agit pas de marcher sur les plates-bandes de qui que ce soit ou de refaire des choses qui ont déjà été faites. Donc, les trois ateliers qu'on avait choisis au départ et qui ont commencé à fonctionner, c'est tout simplement une recherche sur la généalogie qui intéresse beaucoup de gens, parce qu'il faut aussi élargir le public, pas forcément avoir uniquement des écologistes ou des spécialistes de sciences sociales en face de nous. Donc la généalogie, ça a marché avec un petit public, mais très passionné. Et c'était à Solor, puisqu'on veut sortir de Die, donc dans la salle de Solor. Et on va peut-être recommencer. Donc il y a trois sessions, tout simplement, et on a fait beaucoup de progrès, j'ai participé, donc je suis bien au courant. On a fait notre arbre généalogique, on a appris à servir des logiciels, etc. Donc c'est très pratique. Il y a une autre séance sur la conversation en anglais, conversation anglaise, qui a beaucoup de succès, qui est faite avec des anglophones, qui permet à des gens qui parlent déjà, pas forcément très bien, mais quand même de façon assez fluide, à communiquer, à améliorer leur vocabulaire, leur façon de parler, leurs expressions, etc. Ça peut être des gens dont la fille a épousé un Anglais, qui ont des petits-enfants qui parlent anglais, quelqu'un qui va partir faire un voyage en bateau autour du monde, enfin des gens très différents. Et ça marche très bien. Donc ça, c'est une fois par mois. Et puis, on a lancé aussi la conversation, c'est pas la conversation, c'est la lecture à voix haute, avec un comédien que beaucoup de Diwa connaissent, là, Baptiste Rolla, qui est un spécialiste de Giono, et qui nous apprend à parler à voix haute, mais pas forcément au théâtre, dans une réunion, pour faire un discours, ou que ce soit. Et ça aussi, ça marche très bien, on a refusé du monde. Donc là, on est en train d'avoir de nouvelles idées, de préparer ces ateliers qui devront rassembler des gens qui s'intéressent aussi à l'histoire de l'art ou qui s'intéressent à la géopolitique ou à la biologie. Mais il faut qu'on trouve les conférenciers, les animateurs. On a très peu d'argent, donc les ateliers sont payants, mais le moins possible. On trouve des salles gratuites, on se débrouille pour vraiment diminuer les coûts. Et puis voilà, donc on espère développer cette activité-là, mais qui est un peu plus lourde et un peu plus compliquée à monter.
Je reviens sur cette notion de crise avec donc cette confusion qui peut s'opérer au travers de la société. Pour vous, cette nécessité de conférence permet d'étayer un peu vos capacités à chacun de vous. Est-ce que vous opérez également la confrontation d'idées pour se retrouver, pouvoir se repositionner
Alors, au niveau de la confrontation d'idées, c'est vrai que nos conférences, on essaye vraiment d'avoir un débat contradictoire. Donc, on va sans doute préciser ça davantage dans nos futures conférences, en tout cas essayer de s'améliorer sur ce plan-là, de pouvoir avoir de faire un débat contradictoire sur des idées, sur des prises de position, sur...
Et puis, il y a ce rendez-vous le 19 février, ça sera à la salle Séverine Baumier.
À 20h.
À 20h. Et une autre conférence qui sera donnée aussi par Laurent Demanz le 20 mars. Sera animé par lui, donc, et sur le thème de cohabiter. C'est un partenariat avec le Théâtre des Airs pendant le festival de Friction du Réel. Je pense que je l'interviewerai pour ça dans les temps à venir.
Je peux juste le présenter en quelques mots, si vous le voulez bien. Alors, le thème s'appelle « Penser l'espace pour mieux cohabiter », donc comme vous l'avez expliqué, en partenariat avec le théâtre. C'est une rencontre, discussion philosophique et des échanges. Il y aura une heure de discussion et une heure d'échange avec la salle. Ça se passera à 20h, le vendredi 20 mars, à l'espace Barral. Donc, il y aura deux intervenants. Il y aura Joël Zask, qui enseigne au département de philosophie de l'université Aix-Marseille. Elle est également membre de l'Institut universitaire de France, avec des travaux qui portent sur l'écologie, la démocratie ou encore nos rapports aux autres espèces. Il y aura également Michel Lussault, qui est géographe et professeur émérite de l'École normale supérieure de Lyon, qui lui travaille davantage sur les notions d'espace, d'urbanité et de mondialisation. Et effectivement, cette conférence sera animée par Laurent Demanse.
Vous avez d'autres noms ou d'autres dates pour cette université populaire, pour le trimestre?
Alors moi, je peux parler rapidement d'une autre rencontre qui est organisée en partenariat avec l'espace social et avec l'association Abrapalabra, et qui porte sur la langue maternelle et le bilinguisme. Elle sera le 21 février. Le 21 février, c'est le jour de la langue maternelle dans le monde, qui a été décrété par l'ONU. Et donc, on a choisi cette date, bien sûr, parce qu'elle est très, très spéciale pour les personnes qui, par suite d'un mariage avec une personne qui parle une autre langue ou par suite de mariage de ses enfants avec des personnes qui parlent d'autres langues, se retrouvent avec des enfants qui ont deux langues, leur langue maternelle, qui en l'occurrence ne serait pas le français, par exemple une anglaise ou une marocaine, ou un suédois qui se sont mariés avec des Français, qui habitent en France, dont les enfants, donc au début de leur vie, parlent leur langue avec leur mère et qui petit à petit vont à l'école, n'ont plus du tout envie de parler autre chose que la langue que tout le monde parle autour d'eux et finissent par abandonner cette langue maternelle. Et le contact qu'elles représentent avec leur mère, déjà, ou leur père, et puis tout ce que représente une langue au point de vue de la culture, de la façon de voir les choses, de la façon de monter une phrase, d'organiser les génomes, les neurones. Donc c'est très important de garder cette langue maternelle, et ça permet de devenir bilingue, ce qui est un atout énorme dans nos sociétés et qui le sera de plus en plus. Alors que très longtemps, c'était le contraire. On disait aux gens, il faut parler le français, il faut parler la langue de l'endroit où vous vivez, il n'y a que ça qui compte, vous ne serez pas intégré. On s'aperçoit qu'au contraire, c'est tout à fait possible de parler deux langues, qu'au contraire, ça développe l'intelligence au lieu de la diminuer, et que ça permet aussi, pour l'avenir, ça donne un atout fantastique à ces enfants. Mais ce n'est pas évident. Donc la rencontre porte là-dessus. On invite tous les parents ou les grands-parents, même les enseignants, puisque ça pose un problème évidemment avec l'école. Donc à venir le 21 février à 17h30 à l'espace communautaire de l'ESCDD, place de l'Archevêché. Et la réunion sera animée par Alexandra Verrara, qui est une Chilienne, marié à un Français que beaucoup de gens connaissent à Die, puisqu'elle a cette association Abrapalabra. Mais c'est une linguiste extrêmement qui est allée très loin dans ses études de linguistique et qui expliquera bien pourquoi c'est important de conserver la langue maternelle et de la pratiquer.
Ces questions qui sont posées, mon enfant ne parle pas ma langue, pourquoi être bilingue, c'est quoi, ça répond à beaucoup de je dirais pas d'inquiétude, mais est-ce que ça nécessite une demande précise?
Il y a 17 langues différentes qui sont pratiquées à Die. Ça va du népalais, je connais une népalaise, au suédois, au belge, flamand, etc. Et tous ces gens-là se posent ce problème. Avant, on ne se le posait pas tellement. On disait non, il faut parler français. Et même des gens abandonnaient leur propre langue pour ne parler français, que français à leurs enfants. Donc nous, on pense, moi j'ai vécu beaucoup à l'étranger, et j'ai rencontré beaucoup de gens qui parlaient plusieurs langues. Vous savez que plus on parle de langues et plus on peut en parler d'autres. Enfin, si on parle déjà deux langues, c'est beaucoup plus facile d'en parler d'autres. Et dans le monde où on vit, c'est de plus en plus important, tout en restant diwa, français, en ayant des racines, de profiter de cet atout qu'est la deuxième langue.
Vous parlez donc de cette journée donc internationale de la langue maternelle organisée, proposée par l'ONU. Pour vous, la situation de l'ONU aujourd'hui, est-ce que ça vous inquiète?
Alors ça, c'est une autre question. Ça dépasse bien l'université populaire.
Mais
c'est
vrai que justement, les bouleversements au niveau mondial, c'en est un. Et justement, quel impact aussi sur notre territoire ?
L'ONU n'est pas en bonne posture, vous le savez tous. Et vous savez aussi qu'il y a même une proposition d'une autre organisation internationale concurrente qui est proposée par notre cher Donald Trump. Oui. Donc, bien sûr que c'est dangereux, bien sûr que c'est inquiétant. Mais justement, plus on parlera de langue, plus on pourra communiquer avec d'autres pays, plus on pourra s'unir pour combattre, pour que l'ONU subsiste. Moi, je pense que depuis 1947, l'ONU a fait énormément de bien. Et ses agences de développement, l'UNICEF, l'OMS, l'UNESCO, que ferions-nous si l'ONU disparaît ?
Et puis, il faut avoir un milliard hein, à donner à M. Trump hein, pour lui-même. Voilà, ça c'est sa condition d'inscription à ce Conseil de paix. Et pour cela, il y a peut-être aussi d'autres liens possibles pour vous joindre.
Alors, nous avons une boîte mail. Oui. Nous n'avons malheureusement pas encore de site. C'est un de nos gros problèmes. Ça nous facilitera beaucoup la vie, mais on est une petite association qui démarre. On n'a pas beaucoup de fonds financiers. Donc l'adresse mail, je laisse Martine vous la donner.
L'adresse mail, c'est updioi@pm.me.
Justement, il y a Adi, une association qui s'est lancée qui s'appelle Liodi. Je crois que c'est M. Bondaz qui s'est occupé de ça et qui a lancé un petit data center local pour pouvoir communiquer entre nous et de pouvoir s'écarter aussi des GAFAM qui sont une menace actuellement puisqu'on commence à avoir une certaine inquiétude de ces GAFAM qui pourraient peut-être suspendre leurs services au détriment de notre société. Et donc, il y a peut-être, c'est le moment de trouver des alternatives, hein, de pouvoir communiquer. Et donc, il propose des services. Il a donné une conférence il y a 2 semaines à l'Avant-Poste pour ce processus. Je l'ai reçu aussi en interview et il y a une page sur notre site pour mieux connaître un peu cette proposition. Pour vous, donc, c'est peut-être, n'étant pas encore doté d'une page Internet, est-ce que ça serait le moment de s'approcher de lui pour pouvoir justement communiquer entre nous sur le territoire au moins ?
Mmh. Nous allons le rencontrer sans problème, avec plaisir.
Pour la prise de contact, pour cette réunion du 21 février, Anne, est-ce qu'il y a des dispositions à prendre, un contact ou c'est ouvert ?
C'est ouvert, c'est gratuit. On a oublié de le préciser sur le petit flyer que vous verrez sans doute sur les murs et qu'on vous distribuera ces jours-ci. Donc c'est gratuit, c'est ouvert à tous. C'est un samedi, donc il y a un parent qui peut garder les enfants et l'autre qui peut venir à la réunion. La réunion se terminera par un apéro où chacun pourra apporter des spécialités de son pays, parce qu'il ne faut pas la diversité culturelle, c'est aussi la diversité culinaire qui est extrêmement riche et intéressante. Donc venez nombreux, les grands-parents... Les enfants, il vaut mieux pas. On animera peut-être d'autres types d'ateliers plus tard où les enfants seront conviés, mais pour l'instant, c'est surtout les parents. Voilà.
Eh bien, je vous remercie, Anne Selnemo et Martine Millon, d'être venues sur Air du Bois pour nous parler donc, de l'actualité de l'Université populaire du Diwa. Et notamment donc cette conférence du 19 février prochain avec Monsieur Laurent Demanze, qui est professeur des universités. Et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci.
Merci. Au revoir. Bientôt.